À nos chers auditeurs de Radio JM, shalom. René à Chris depuis Hebron. Mais le pays où tu vas entrer pour en prendre possession n'est pas comme le pays d'Égypte dont vous êtes sorti, où tu jetais ta semence et arrosais avec le pied comme un jardin potager. Mais le pays où vous allez passer pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées, de la pluie du ciel il s'abreuve, un pays dont le Seigneur ton Dieu prend soin. Sur lui, les yeux du Seigneur ton Dieu sont fixés constamment du début de l'année à la fin de l'année. Voilà un passage biblique que nous lirons ce Shabbat dans toutes les synagogues de France, de Navarre et bien entendu Béret Israël. L'Éternel semble considérer le fait de semer, d'arroser, ainsi que le faisaient nos ancêtres en Égypte, comme un handicap. Et pourtant, il semble qu'on pouvait irriguer et cultiver le plus facilement du monde cette terre égyptienne. Par contre, l'Éternel abonde en louanges à l'égard de la terre d'Israël qui est loin, quant à elle, d'être plane et qui ne semble pas la plus appropriée pour s'y livrer à des plantations et à des récoltes, dans la mesure notamment où l'eau nécessaire à l'irrigation y fait cruellement défaut. Il y a là donc un paradoxe qu'il nous faut expliquer. Notre grand commentateur, Rashi, que vous connaissez, explique ce même passage en disant « D'une certaine manière, la terre d'Israël possède un avantage de taille. Arrosée uniquement par la pluie, elle évite aux agriculteurs de se dépenser physiquement. Qui plus est, cette pluie tombe sur toute une région de manière uniforme, ce qui est un avantage non négligeable. » Je vous rappelle entre parenthèses que Rashi a habité dans une région vinicole près de la ville de Troie. Mais il est possible de réfuter cette interprétation en affirmant qu'en matière de pluie, le peuple d'Israël dépend finalement du bon vouloir divin, tandis que l'Égypte est, quant à elle, indépendante. Ne possédera-t-elle pas toutes les immenses réserves aquifères du Nil ? Certes, l'eau qui irrigue les cultures d'Eret Israël est obtenue par le chemin le plus difficile, mais cette voie est paradoxalement la plus sûre. La Torah elle-même nous explique dans la suite du verset déjà cité, ce pays est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Sur lui, les yeux du Seigneur, ton Dieu, sont fixés en permanence du début de l'année à la fin de l'année. Entendez bien. La relation entre Dieu et la terre dépend de notre comportement personnel, comme on peut le constater dans le second paragraphe de la fameuse prière de Shema Israël. Si vous respectez mes commandements, je ferai tomber la pluie, etc., etc. Sinon, il n'y aura pas de pluie. Il est vrai que cette relation intime avec le Créateur est parfois difficile à assumer, mais en tout cas, elle est préférable à l'absence totale de relation entre l'homme et l'Éternel. Sans le moindre contact avec le divin, l'être humain est en effet livré à lui-même. Ainsi, en Égypte, par exemple, les Hébreux ne savaient pas encore avec certitude si Dieu les acceptait ou les repoussait en tant que collectivité. Ils ne possédaient pas du tout de baromètre spirituel susceptible d'évaluer la nature de leur relation avec le Créateur. Par contre, en terre d'Israël, la communication se faisait au moyen des chutes de pluie qui permettaient presque instantanément de vérifier si Dieu avait agréé leur prière. D'une manière indirecte, on pourrait dire que la pluie nous renforce dans nos bonnes actions, tandis que la sécheresse nous pousse à nous repentir. Le temple de Jérusalem était également le théâtre d'une situation analogue et en même temps tout à fait miraculeuse. Dans le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, où seul le grand prêtre pénétrait le jour de Yom Kippour, deux chérubins en or massif étaient dressés sur l'arche sainte. Or, personne ne pouvait contempler ce spectacle car, durant l'année, les portes d'accès en étaient closes. Uniquement à trois reprises chaque année lors des fêtes de pèlerinage qui rassemblaient le peuple à Jérusalem, toutes les enceintes intérieures et extérieures du temple étaient grandes ouvertes. De plus, ces ouvertures se trouvaient en enfilade, permettant aux fidèles d'apercevoir d'un même regard l'arche sainte dominée par ces deux chérubins. Alors les prêtres s'exclamaient « Voyez votre amour devant l'Éternel » et il s'agissait là d'un amour réciproque. En se penchant de plus près, on pouvait constater que ces deux chérubins formaient un couple puisque l'un avait une figure masculine et l'autre un visage féminin. L'un représentant l'Éternel et l'autre le peuple d'Israël, comme nous enseignent nos sages. Lorsque l'harmonie la plus parfaite régnait entre Dieu et son peuple, les deux chérubins étaient face à face et se contemplaient. Par contre, en période de rupture et de crise de confiance, ils se détournaient l'un de l'autre. Ainsi, chaque créature pouvait à un instant donné juger de l'intensité de la relation, le liant, avec son Créateur. Ces chérubins étaient une sorte d'amouromètre, dirait-on, entre le peuple d'Israël et son Créateur. Il est important de comprendre que cette dépendance par rapport à la volonté divine ne doit en aucun cas être perçue comme un handicap. Elle constitue au contraire un avantage sans pareil. Et nous le remarquons aujourd'hui plus que jamais. Dépendre des êtres humains ne peut-il pas souvent s'apparenter à une forme d'esclavage? C'est pourquoi nous prononçons chaque matin au réveil cette bénédiction, béni sois-tu éternel, notre Dieu, qui ne nous a pas fait esclaves des hommes, bien entendu. Par contre, être esclave de Dieu représente la plus grande des libertés. Rabbi Yehuda Lévi le faisait remarquer dans l'un de ses chants poétiques. Les esclaves du temps sont esclaves d'esclaves, tandis que seul l'esclave de Dieu est véritablement libre. Depuis cette terre nouvellement libre, depuis quelques dizaines d'années, retrouvant sa souveraineté, son indépendance, et par les pluies qui sont tombées abondamment, cet automne et cet hiver, je vous salue bien bas, je vous souhaite Shabbat Shalom, et très vite, très rapidement, j'aimerais que nous puissions tous ensemble ouvrir nos parapluies, ensemble, sous ces cieux, sur cette terre. À la semaine prochaine, René Akrif depuis Révoine.